Bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier mardi une résolution appelant à une forte mobilisation de la communauté internationale face à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il appelle toutes les parties au conflit armé dans cette région à permettre la libre circulation du personnel humanitaire. Quelle analyse faire de cette résolution? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Julien Paluku, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi.
Arsène Mouaka, bonsoir.
Bonsoir, Donna.
Un professeur d'université et député national de l'opposition. Vous êtes élu de Beni au Nord Kivu. Et puis enfin, Gauthier Moussengue Mwanza, sociologue. Vous êtes enseignant et chercheur à l'université de Kinshasa. Gauthier Moussengue Mwanza, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un fait qui est très très rare, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier mardi une résolution appelant à une forte mobilisation de la communauté internationale face à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. L'instance onusienne a également félicité l'action du gouvernement congolais face à cette épidémie. Le Conseil de sécurité a toutefois aussi appelé toutes les parties au conflit armé à l'est de la RDC à permettre la libre circulation du personnel humanitaire. On écoute ici le compte-rendu de cette résolution.
Les membres du Conseil se disent profondément préoccupés par l'état global de la sécurité dans les zones touchées par l'épidémie d'Ebola, qui compromet gravement, selon eux, l'intervention d'urgence et facilite la progression du virus en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises ont déclaré une épidémie d'Ebola le 1er août dans la province du Nord Kivu. L'épidémie a également été constatée dans la province de l'Ituri, plus au nord. Entre le 4 mai et le 15 octobre 2018, 216 cas d'Ebola ont été signalés et au total 139 décès sont survenus. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité demande à tous les groupes armés, y compris les forces démocratiques alliées, de mettre immédiatement un terme aux hostilités. Il demande aussi à toutes les parties de permettre le libre passage, dans de bonnes conditions de sécurité et sans délai, de l'ensemble du personnel humanitaire et médical dans les zones touchées et de respecter et de protéger tous les civils et les travailleurs humanitaires et sanitaires. Le Conseil de sécurité souligne également dans sa résolution que les équipes d'action humanitaire, les hôpitaux et autres installations médicales qui apportent une assistance aux personnes qui sont dans le besoin doivent être respectées et protégées et ne doivent en aucun cas être pris pour cible.
Un autre appel, c'est lui du directeur général de la lutte contre Ebola au ministère de la Santé et coordonnateur de la riposte. Docteur Bate Njoloko déplore qu'une dizaine d'enfants traités pour d'autres maladies dans des centres de traitement de tradis praticiens à Beni sont sortis de ces centres contaminés par Ebola depuis le début de cette épidémie au Nord Kivu. Certains de ces enfants ont été victimes de séquestration pendant leur séjour dans ces centres de traitement de tradis praticiens. Le docteur Bate Njoloko revient sur ces incidents et annonce des discussions avec les tradis praticiens de Beni pour qu'ils puissent s'associer à la riposte contre Ebola dans la région. Il est au micro de Martial Papi Mukeba.
Cette épidémie a un caractère de contamination à milieu hospitalier de façon générale et nous avons eu des contaminations autant dans les hôpitaux entre guillemets modernes et dans les structures de santé traditionnelles, des tradis praticiens. Nous confirmons que nous avons une bonne dizaine d'enfants qui ont été contaminés dans le milieu hospitalier tradis moderne ou traditionnel. Le gros des problèmes, c'est la séquestration de ces enfants par nos collègues de la médecine traditionnelle. Voilà pourquoi nous avons pris langue avec les responsables de la médecine traditionnelle à Beni essentiellement, pour que ces gens-là nous rejoignent dans la riposte. Et cela pour deux raisons. Il y a des tradis praticiens qui ont été contaminés et on a noté les décès. Et à côté de ça, non seulement ils doivent se protéger, puisque eux aussi sont vulnérables devant Ebola, mais ils devraient aussi protéger les malades qui viennent chez eux. Et la médecine traditionnelle demeure une des composantes des soins de santé primaires de notre système de santé. Mais l'essentiel est que ce soit régulé et que ce soit accompagné par des mesures universelles connues d'hygiène hospitalière.
Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Une résolution, si notre compréhension est bonne, est un acte politique et concerne généralement la marche des États, mais celle d'hier concerne l'épidémie d'Ebola qui frappe dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est quoi exactement cette résolution et son adoption va permettre de faire quoi exactement contre cette maladie?
Oui, merci beaucoup. Je pense que au regard de cette résolution qui vient d'être votée par le Conseil de sécurité, on note que la menace a effectivement traversé les frontières. C'est-à-dire l'écho de cette menace est arrivé beaucoup plus loin. Ça rappelle effectivement ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. J'ai à le dire dans une des émissions en Sierra Leone, au Liberia, qu'effectivement, lorsque le Conseil de sécurité avait constaté ce genre de menace, il avait voté une autre résolution là-bas, je crois, c'est 2177. Alors, qu'est-ce qui pourrait motiver ça? Moi, à mon avis, je crois que ça semble être le constat de cette coexistence dans la région de Beni, de l'insécurité généralisée, essentiellement due par la présence des rebelles ougandais, les ADF, les groupes armés, et la maladie à virus Ebola, parce que cela complique tout de suite la riposte. Vous avez eu à suivre tout ce qui ont fait les reportages sur la situation de Beni. Je crois que cette coexistence-là, effectivement, soulève un problème qui risque d'élever la menace au niveau régional ou même international. Parce que la seule région de Beni Lubero a à peu près 4 millions d'habitants. Lorsque vous y ajoutez l'Ituri, la région touchée, c'est à peu près 6 millions. Mais si vous prenez l'ensemble de la province du Nord Kivu et l'ensemble de la province de l'Ituri, nous sommes à 14 millions d'habitants. Ça dépasse largement la population de beaucoup de pays en Afrique et dans le monde. Et donc, il est normal que le Conseil de sécurité trouve en cela une menace internationale, parce qu'il suffira effectivement que ça explose du Nord Kivu pour que ça atteigne toute la région des Grands Lacs, avec la proximité que nous avons de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Donc je crois que c'est une alerte et une prise de conscience qui est plus ou moins soulevée par le Conseil de sécurité pour demander aux États de ne plus considérer la question du virus Ebola comme un fait anodin qui concerne les populations de Beni, mais comme un grand risque qui risque d'embraser toute la région et avoir une ampleur internationale.
Julien Paluku, j'imagine que pour le gouverneur que vous êtes, des déclarations ou des prises de conscience, comme c'est le cas pour cette résolution sur Ebola à l'est de la République démocratique du Congo, des telles déclarations ne pourraient pas suffire. Est-ce que cette résolution vous donne, à vous comme gouverneur ou aux humanitaires sur place, plus de moyens de riposte ou pas?
Moi, je me pose la question, c'est pourquoi je suis entre satisfaction et interrogation lorsque j'ai suivi cette résolution. Je me pose la question de savoir si le Conseil de sécurité va créer une mission comme ça a été en Afrique de l'Ouest, où on avait plus ou moins créé une sorte de mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola. Est-ce qu'il y aura à l'intérieur de la MONUSCO une autre filière qui va essentiellement s'occuper comme mission subsidiaire de la riposte contre le virus Ebola, ou c'est seulement une mobilisation des États pour appuyer l'OMS et les ONG partenaires à devoir augmenter leur capacité de riposte vis-à-vis de ces virus? Donc c'est pourquoi il y a encore beaucoup à apprendre de ceux qui ont voté la résolution, mais du moins ce qui nous importe, ce qui nous intéresse, c'est que au niveau international, on est conscient de la menace, et je crois que la lutte devra être commune au regard des statistiques actuelles, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à près de 175 décès depuis le début de l'épidémie, ce qui est quand même un risque élevé, avec des personnes qu'on est en train de suivre, des personnes contactées, qui ont contacté les malades à virus Ebola, qui sont perdus de vue depuis un certain temps, qu'on est en train de rechercher, et qui risquent demain de créer une autre flambée si réellement on perd de vue toutes ces personnes qui se sont glisser dans la nature à la suite des résistances qu'on avait observées au début.
Monsieur le gouverneur, on regrette bien évidemment les incidents signalés ici des enfants qui ont été contaminés alors qu'ils étaient en soins pour autre chose. À ce stade, puisque la situation ne fait qu'évoluer assez régulièrement, quelle est la situation et aussi au niveau des statistiques, vous le disiez déjà un mot dessus, mais aussi au niveau de la riposte. La riposte est-elle suffisamment bonne en ce moment? Y a-t-il des choses qui manquent? Est-ce qu'on va vers la fin ou tout est encore à faire?
Non, moi, je dois saluer toutes les équipes de riposte, qu'il s'agisse des équipes gouvernementales, mais également des ONG internationales, de tous les partenaires sous la coordination de l'OMS. Je dois saluer tout ce qui a été fait, parce qu'on regarde la densité dans la région de Beni, avec des agglomérations qui ont 60 000, 100 000, 200 000 personnes, 1 million d'habitants, qu'on arrive quand même à maîtriser ces virus à ce niveau. Je crois qu'il y a quand même à saluer le travail qui est réalisé sur le terrain. Alors, au niveau des statistiques, comme vous l'avez dit, on a pu quand même vacciner à titre préventif près de 25 000 personnes déjà dans la région de Beni et la région proche de Beni vers l'Ituri, ce qui est un record peut-être jamais atteint. Mais à côté de cela, il y a des cas qu'on est en train de suivre parce que je reçois les rapports chaque jour. Il y a près de 5 000 personnes qui sont des personnes contact avec les malades à virus Ebola, qui sont suivies chaque jour pour qu'on sache si réellement elles développent la maladie. Mais à côté de cela, il y a malheureusement d'autres personnes, plus de 200, dont on a perdu le contrôle, qui se sont enfuis dans la nature, soit parce que peut-être ils avaient été sensibilisés pour dire que le virus Ebola, c'était un mauvais sort qui était jeté à Beni. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de décès communautaires, c'est-à-dire des décès en dehors des structures sanitaires qu'on observe dans la ville de Beni et environ. Et donc l'équipe est en train de cerner toutes ces questions-là pour qu'on suive tous les contacts qui ont échappé à un certain moment à la vigilance de nos équipes de riposte. Et je crois que dans les planifications qui sont faites, on est en train de voir d'ici un mois si on peut déjà avoir maîtrisé tous les cas de contacts qui ont échappé à nos équipes de riposte.
Merci Julien Paloukou. Nous revenons à vous dans un instant. Arsène Mouaka, professeur d'université et député national de l'opposition. Vous êtes élu de Beni au Nord Kivu. Hors antenne, vous me disiez que vous y reveniez il y a quelques moments seulement. Cette résolution de l'ONU sur Ebola vous réconforte-t-elle ou vous met-elle un peu comme le gouverneur lui-même entre hésitation et satisfaction?
Je pense que je suis à un début de satisfaction, d'autant plus que ce qui se passe dans cette région semble être en dehors du monde. Et cette région vit une catastrophe depuis des années, et c'est comme si rien ne s'est passé alors qu'il y a une présence de la communauté internationale. Et donc cette résolution semble être un début du réveil de la communauté internationale sur le drame qui est en train de se dérouler dans cette région, où des milliers de personnes ont perdu leur vie, et particulièrement le personnel soignant. Et je tiens à m'incliner devant leur mémoire, et particulièrement devant une de mes anciennes étudiantes, infirmière à Mangango, de Kilamba Kulira, qui a perdu sa vie comme ça, voulant sauver d'autres personnes.
Toute notre compassion.
Merci.
Et vous qui regardez donc cette épidémie évoluer, professeur, est-ce que vous pensez que la résolution, déjà les moyens utilisés jusqu'ici, mais également cette nouvelle résolution qui vient d'être adoptée, est un moyen efficace pour avancer dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui?
Bien avant ça, il faut quand même saluer les efforts qui sont là. Je pense que notre gouvernement fait rarement de bonnes choses. Et quand il y a une bonne chose, je pense que l'honnêteté scientifique voudrait qu'on reconnaisse que l'équipe du docteur Nzoloko, avec le ministre en tête et le gouvernement, font quand même du bon travail pour ce qui est d'Ebola. Et qu'il y a eu des efforts dans l'épicentre de l'épidémie à Mangina, et avec l'aide de la communauté internationale, qui fait aussi du bon travail, et les choses ont été maîtrisées. Mais malheureusement, le transfert de la maladie à Beni est tel que les choses sont catastrophiques, et moi je pense que la résolution tombe à point nommé, d'autant plus qu'on est dans une situation de mouvement des populations, avec les dernières tueries dans la ville de Beni, dans la ville d'Oicha, à Ngité, et particulièrement à Makumbo. La population semble perdre l'espoir et les gens se déplacent massivement, dans tous les sens. Il y en a qui vont à Bounia, à Goma, et ainsi de suite. Et la fermeture des écoles, par le fait de l'insécurité, semble rapidement contribuer au mouvement des populations, puisque beaucoup d'élèves, pour des parents qui ont des moyens, sont obligés d'être envoyés dans des endroits où il y a encore cours, puisqu'il y a une grève généralisée dans cette région-là. Et donc, du coup, les mouvements des populations sont rapides. Les AFA vont dans des régions différentes, à Bounia, à Goma, à Butembo, et ainsi de suite. Donc, on change des milliers comme ça, à Mutuanga, et ainsi de suite. De telle sorte que la maladie risque de se propager très rapidement, tout simplement, puisque les raisons de sécurité ne sont pas tenues. On ne tient pas correctement la sécurité. Et ça, c'est vrai, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Et je pense que dans la résolution, on a eu à l'épingler, mais c'est aussi la responsabilité de la communauté internationale qui est là, avec une brigade chargée de se battre et qui observe au lieu de se battre. Et donc, je semble croire que cette résolution interpelle l'ONU elle-même. L'ONU est interpellée elle-même sur le laisser-aller qui est en train de se dérouler dans cette région où une petite rébellion qui n'a plus beaucoup de gens, c'est des gens qui ont presque été défaits par le général Lucien Bauma, d'heureuse mémoire, mais progressivement, on constate que le drame est très fort et les tueries sont tellement cruelles que les gens ne peuvent que se déplacer. Et si ça doit continuer, je pense que nous allons assister à la plus grande catastrophe et je pense que la communauté internationale l'a vu maintenant. Comme je l'ai dit, elle doit être interpellée elle-même. Elle doit être interpellée pour que quelque chose se passe dans cette région de Beni.
Professeur, la question que je vais vous poser maintenant peut paraître un peu exotique, mais elle est vraiment sérieuse. Elle vient des commentaires qu'on entend au sein de l'opinion. Est-ce que cette situation d'Ebola n'affecte que les populations dites innocentes, ou puisqu'on parle des groupes armés, on a pu compter parmi les groupes armés des personnes affectées par cette épidémie?
Je sais que c'est une épidémie qui ne suit pas la force des larmes. Et donc, il n'est pas exclu, je n'ai pas d'éléments, mais il n'est pas exclu parmi les personnes qui sont mortes, il y a des miliciens. Par exemple, je prends le cas des EDF qui viennent toucher les corps, égorgent les personnes et donc touchent les sacs humains. Et on sait que cette maladie se transmet justement par tous ces contacts et tous ces liquides que le corps produise. Et le sang, c'est un bon véhicule justement de cette maladie. Il n'est pas exclu que le fameux EDF n'attrape cette maladie et ne la propage sur les animaux dans le parc national de Virunga où il se retire après avoir tué, et que la plus grande catastrophe s'observe justement dans cette région. Et donc on est là en face d'une situation chaotique bientôt, de telle sorte que au risque de beaucoup déplorer. Mais maintenant les miliciens locaux, bon, ils vivent avec la population, ils ont des contacts avec la population, et là aussi encore un grave risque. Et donc je ne sais pas comment les choses vont se passer. Il y en a qui pensent qu'il faut impliquer les chefs des milices et des rébellions dans la lutte contre Ebola. Je pense que sur le plan sécuritaire, c'est techniquement impossible. Bon, on verra comment ça se passera. Mais je pense que la solution d'éradiquer les sources d'insécurité est très nécessaire.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Nous allons donner la parole aussi à un de vos collègues qui participe ce soir à notre casting, Gauthier Moussengemwanza, sociologue. Vous êtes enseignant et chercheur à l'université de Kinshasa. Quelle est à ce stade votre lecture de cette résolution de l'ONU?
Monsieur le journaliste, le problème d'Ebola est d'abord d'arrêter la chaîne de transmission du virus. Mais on constate avec beaucoup de peine que la mentalité, la culture, le comportement de la population est devenu un grand obstacle sur le terrain. La population oppose plusieurs résistances. Prenons le cas au niveau de la perception de la maladie elle-même. Parce que certaines personnes, surtout au début, ne croyez pas que cette maladie-là, en fait, Ebola est une maladie réelle, mortelle. Certains disaient que ce sont les gens de l'OMS, UNICEF, Union africaine, le gouvernement congolais, les médecins sans frontières, qui qui créent une occasion pour qui se donnent de l'emploi afin de, d'avoir le travail et puis obtenir le financement et se donner des salaires.
En diffusant une rumeur sur une maladie.
Oui, en diffusant des rumeurs sur une maladie. Alors, c'est petit à petit, à force de constater les cas de décès, que les gens ont commencé à comprendre que c'est une réalité, en fait, donc c'est une maladie réelle. Prenons le cas de l'Équateur. Je vais revenir au cas de Beni et Boutembo après. Je fais une rétrospective par rapport à ce qui était arrivé, par exemple, à l'Équateur. Au départ, les gens n'y croyaient pas. Juste, bon, donc ils disaient que non, ce sont les gens qui se créent qui se créent de l'emploi. Mais au fur et à mesure que les gens mouraient, finalement, ils ont compris que non, c'était réellement une maladie qui était mortelle. Par exemple, pour le quand on utilisait le thermoflash, donc comme le thermoflash a la forme d'un fusil. Certaines personnes croyaient que c'était un revolver qu'on utilisait pour abattre la population. Alors, les gens ne voulaient pas voir ça. Ça faisait peur aux gens. Deuxièmement, pour le cas de lavage des mains, par exemple, l'odeur de chlore posait problème. Les gens disaient que avec cette odeur-là, quand il va au champ, quand il va à la chasse, par exemple, les animaux vont fuir. Donc, il ne saura pas attraper les gibiers. Pourquoi ? Parce qu'il a l'odeur de chlore. S'il va, par exemple, à la pêche, au niveau de l'Équateur, les poissons vont fuir à cause de l'odeur de chlore. Alors, ça posait trop de problèmes. Le prélèvement de sang posait aussi des problèmes parce que, pour eux, ils disaient que c'est une sorte d'euthanasie.
Alors,
donc, surtout qu'on prélevait à grande quantité, donc pour eux, c'était une façon de vous tuer, donc de vous sécher le sang dans le corps, et justement, ça vous amène à la mort.
Gauthier Moussenemanza?
Oui.
Gauthier Moussenemanza, nous reviendrons tout à l'heure sur un éclairage justement culturel à avoir et à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant avec cette maladie. Mais est-ce que justement, face à tout cela, la maladie s'est propagée et on est aujourd'hui dans les situations qui ont été décrites par vos prédécesseurs tout à l'heure, est-ce que pour vous, la résolution adoptée hier par l'ONU sur cette maladie a apporté quelque chose?
Bon, la résolution est bonne, mais il faut que cette résolution s'adapte avec la situation de terrain. Parce que, vous voyez, la population, le fait que les gens ne croient pas, certaines personnes jusqu'alors ne croient pas en cette maladie, c'est ça qui pose le problème. Certaines personnes ne croient pas en ça, et le fait de ne pas croire en cette maladie pose trop de problèmes. Il y a un intervenant qui a parlé des guérisseurs. Il y a des guérisseurs qui posent trop de problèmes dans
le déclenchement d'une maladie.
Problème-ci, parce que pour eux, le fait de rassembler les malades, les guérisseurs rassemblent les malades, les mettent ensemble. Vous voyez comment est-ce que cela peut entraîner encore la propagation. Et aussi, lui-même, les guérisseurs est avec eux. Ça pose trop de problèmes. Pour le cas de l'Équateur, par exemple, c'est... Il y avait des maisons de prière où on rassemblait des malades qui étaient ensemble. Alors, quand on va demander, par exemple, ces malades pour les amener dans le cas d'isolement, le pasteur ou bien l'animateur de cette maison de prière-là ne veut pas céder parce que pour lui, il faut attendre que les esprits autorisent.
Alors...
Pour amener ces gens-là dans les musées d'isolement. Alors, ça pose trop de problèmes, surtout même au niveau de Kivu, à Beni, là-bas, et Butembo.
Alors,
on lit ça avec la situation politique du pays.
Gauthier Moussenemanza.
Oui.
Alors, vous qui êtes sociologue et qui connaissez bien l'impact des habitudes et des perceptions culturelles sur la vie de manière générale, pensez-vous qu'il y a des choses à faire du point de vue culturel pour contribuer à la riposte contre Ebola dans cette partie de la RDC?
Beaucoup de choses à faire. Il faut impliquer tout le monde. dans cette histoire-là. Impliquer les pasteurs, parce que les gens entendent facilement les pasteurs. Impliquer l'Église en général, donc les pasteurs en général de l'Église, que ce soit l'Église catholique, protestante, humaniste, ainsi de suite, tout ça, les Églises indépendantes, impliquer par exemple les députés, le politique, ainsi de suite, les leaders d'opinion, parce que il y a aussi les leaders d'opinion qui posent problème, parce que eux aussi font voir aux gens que non, cette maladie ici, l'Ebola n'est pas réelle, c'est le pouvoir qui est en train de créer ça pour qu'il n'y ait pas élection, pour que ainsi de suite. Donc vous savez, maintenant on explique ça aussi par le pouvoir.
Merci.
On est en train d'incriminer le pouvoir en place dans le phénomène Ebola. Et ça pose trop de problèmes.
Merci Gauthier Moussené-Mwanza. Il y a aussi les avis de la population qui constate et analyse cette maladie avec nous. Et nous allons donner la parole au gouverneur Julien Paluku. Mais avant, nous allons avec lui écouter cette réflexion qui nous vient de Mambasa.
Racidimidiracho de Mambasa à province de l'Ituri. Nous saluons pas que tardive la résolution prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies quant à la lutte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans la province. Tout le monde sait les dégâts que cause cette maladie. Néanmoins, elle met tout un peuple à désespoir vu que jusqu'à ce jour, les massacres qui se passent dans la même région n'est pas une priorité des Nations Unies sur qui le peuple est compté. Appeler les partis à faciliter le déplacement des agents de santé sans mettre fin à ce phénomène ne résoudra rien.
Alors, monsieur le gouverneur, si on met de côté l'énergie que Rachidi a mis pour poser sa question, est-ce que ce qu'il dit a quand même une substance à prendre en considération?
Oui, moi je crois que monsieur Rachidi de Mambasa a évoqué la coexistence des menaces dans la région, c'est-à-dire d'abord l'insécurité qui y sévit et à côté d'elle aujourd'hui le virus Ebola. Et la perception qu'il a, c'est que on semble s'être empressé effectivement à pouvoir très rapidement prendre une résolution contre la maladie à virus Ebola, alors que selon Rachid, c'est sa compréhension, il y a eu quand même déjà des milliers de morts dans la région. On n'a pas senti, selon lui, cette sorte d'empressement pour qu'on limite ces massacres. Moi, je crois que à ce stade, il est important de souligner effectivement que cette épidémie à virus Ebola vient en quelque sorte réveiller la communauté internationale sur ce qui se passe chez nous. C'est comme pour constater que c'est finalement que les gens se rendent compte qu'il y a une grande menace à côté de laquelle vient s'ajouter une autre, et les deux menaces mises conjointement ensemble risquent de créer une flambée et ainsi embraser toute la région. C'est la raison pour laquelle le Conseil de sécurité doit être interpellé effectivement sur le type de sanctions ou même les embargos qui sont souvent appliqués à la République démocratique du Congo. Parce que on n'aurait pas peut-être mis des embargos sur la RDC avec beaucoup de conditionnalités sur les armes qui doivent venir à la République démocratique du Congo, peut-être qu'on aurait aidé le pays à éliminer cette menace sécuritaire qui sévit dans la région. Vous savez que pour acheter les armes par la RDC, il y a beaucoup de conditionnalités, même si l'embargo a été officiellement peut-être levé en 2008 ou en 2016, mais il y a quand même beaucoup de conditionnalités où pour acheter des armes, pour les transférer à la RDC, il faut que l'on tienne informé les comités de sanctions de l'ONU si réellement ces armes vont en direction de la RDC. Tous ces éléments-là ont freiné effectivement la capacité du gouvernement congolais à faire face à toutes les menaces sécuritaires que nous avons, comme c'est le cas dans les territoires de Béni.
Julien Paluku.
La résolution. Oui.
Julien Paluku, vous avez entendu tout à l'heure s'indigner le professeur Arsène Mwaka de l'activisme encore présent des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais vous, en tant que gouverneur, hein, sans dévoiler bien évidemment les stratégies militaires, comment aujourd'hui concilier riposte et action militaire?
Oui, c'est quand même difficile, mais ce n'est pas incompatible. On ne peut pas dire que parce qu'il y a présence de l'épidémie à virus Ebola, on ne peut plus mener des actions militaires. Moi, je crois que d'ailleurs, que si les actions militaires sont menées, elles permettraient effectivement aux équipes de riposte de se mouvoir allègrement dans la région pour apporter secours aux populations en détresse. Bien sûr, il se pose un problème lorsque on constate qu'il y a des personnes qui ont été en contact avec les malades à virus Ebola et qui ont pris fuite ou qui sont, se sont même retrouvés dans les zones Maïmaï comme à Kalunguta ou à un moment donné. Nous avions des personnes en contact qu'on recherchait, mais qui ont préféré aller se cacher dans des bastions de Maïmaï et ça constitue un problème. Mais quand on a commencé à avoir des morts, comme je l'ai dit, des décès communautaires, eh bien les gens ont commencé à sortir. Donc je crois que c'est quand même une complexité, mais qui appelle des solutions robustes à la fois de la communauté internationale, mais de notre gouvernement également.
Professeur d'université et député national de l'opposition, Arsène Mouaka, vous êtes élu de Beni au Nord Kivu. Vous allez à présent reprendre la parole, mais juste après avoir écouté ce commentaire qui nous vient d'Emmanuel Assani.
Emmanuel Assani Kalume depuis Kisangani. En suivant cette déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, était bonne si c'est la fin d'Ebola qui peut mettre fin au massacre de nos frères à Beni. Mais en voyant ce qui se passe à Beni, pouvons-nous considérer cette déclaration seulement comme une manière de protéger l'air contre cette maladie? La résistance de cette maladie dans ce coin du pays est le fruit de l'insécurité. Pourquoi se pencher plus aux fruits et laisser l'arbre qui donne ses fruits?
Arsène Mouaka, est-ce que vous pouvez rassurer ce compatriote?
Oui, je sais qu'il réfléchit comme beaucoup de mes compatriotes à Beni, qui estiment qu'ils sont morts très nombreux, plus de 2000. Ils sont morts du couteau des EDF. Et on n'a pas encore atteint le nombre de 1000 pour Ebola. On n'a pas encore atteint le nombre de 300, de 500 que la communauté internationale déferle à Beni. Et que la République donne ses meilleurs fils, à l'instar de Dr Nzoloko et son équipe, à l'instar de Dr Mouyembe avec sa molécule et son équipe, et le meilleur. Et pour une fois, le Congo fait des meilleures choses, puisque nous avons même des molécules que nous proposons pour guérir cette terrible maladie qui se discute au niveau mondial. Le gouvernement a sorti ses meilleurs fils. Mais par contre, quand il y a EDF, depuis 4 ans qu'on égorge les gens, depuis plus de 10 ans qu'on kidnappe les gens, depuis plus de 20 ans qu'on tire sur les gens et qu'on les amène à brousse, le gouvernement ne semble pas avoir vite sorti ses meilleurs fils. Il n'y a jamais eu embargo au Congo. Je voudrais le dire à tous nos auditeurs qui nous suivent. On a toujours fait croire que nous étions sous embargo. On n'a jamais été sous embargo. Le gouvernement de la République n'a jamais été sous embargo. Et pendant longtemps, les officiels se sont trompés sur ça. Ce sont les groupes armés qui étaient sous embargo et ils sont surveillés. Et donc, il n'y a personne qui refuse notre argent sur le marché des armes pour que nous puissions acheter les meilleures armes et frapper correctement l'EDF, qui est localisable sur un espace de 50 km². Et donc, il n'est pas question de justifier quoi que ce soit, et ce n'est pas peut-être le lieu de pouvoir attaquer notre gouvernement pour qui, pour une fois, fait une meilleure chose en matière de santé. Mais puisque il y a une relation entre le risque de propagation de cette maladie et de continuation des morts, eh bien, on est obligé de dire la vérité. C'est-à-dire, ce que nous réclamons, c'est peut-être ce que Hassan veut dire, c'est qu'il y ait double riposte. Nous réclamons double riposte. Riposte contre Ebola, on a sorti les meilleurs fils, les meilleures molécules, les meilleures armes. Les gens vivent dans les meilleurs hôtels à Beni. Ils sont très bien payés pour lutter contre Ebola. C'est ce qui révolte une frange de la population qui dit « Mais comment on peut vivre comme ça? Laissez-nous mourir carrément d'Ebola au lieu de vous moquer de nous. » Parce que nous, ce que nous ressentons comme menace imminente, c'est eh bien le couteau de EDF. Et donc, je ne donne pas raison à cette population-là. Je ne donne pas raison, mais c'est une résignation, c'est une révolte. Et c'est ce qui fait que même à Beni, en partie, que le virus puisse se propager, puisqu'à un moment, on s'est dit, laissez-nous mourir, puisque vous ne voulez pas arrayer ce qui est un véritable danger pour nous, qui ne nous laisse pas dormir depuis des années. Et vous venez juste avec de très gros moyens pour ce que nous ne trouvons pas comme dangereux, quand bien même ce soit très dangereux. Donc, je voudrais dire qu'on attaque une double riposte et que le gouvernement de la République, les mêmes, sortent les meilleurs fils de l'armée. sortent les meilleurs éléments de l'armée et que ces éléments soient bien logés, bien nourris, bien équipés comme on l'a fait pour les médecins et les infirmiers. Et que très vite, qu'on apprenne qu'il n'y a plus Ebola, qu'il n'y a plus EDF. Et que la communauté internationale vienne avec ses drones, ses hélicos et tous les gros moyens qui sont déployés ici, en République démocratique du Congo, parce qu'on ne prendra pas d'autres moyens. Et je suis content d'apprendre qu'ils ont trouvé des troupes spéciales et que finalement nous aurons peut-être des lunettes spéciales qui savent voir les tueurs qui viennent toujours à 19h. Ils viennent à 19h, à 20h, dans l'obscurité. Et les lunettes, pour les acheter, notre argent n'est pas refusé sur le marché international.
Merci pour Gauthier Moussengue Mwanza, professeur. C'est ce commentaire de Bukavu.
Robert Mahomet de Bukavu, au sud Kivu. Adopter une telle résolution, c'est bien pour autant que l'on veuille aider la RDC à lutter contre l'épidémie d'Ebola dans sa partie est. Mais je ne pense pas que les partis au conflit armé à l'est de la RDC puissent y accéder facilement. Au lieu d'adopter cette résolution, les Nations Unies seraient mieux d'adopter une résolution qui arrêterait d'abord des stratégies pour mettre un terme aux hostilités à l'est de la RDC. À lutter par après en sécurité contre Ebola, dans cette partie de la RDC. Autrement, la lutte contre l'épidémie d'Ebola à l'est de la RDC ne devrait jamais venir avant la neutralisation des groupes armés.
Gauthier Moussengue Mwanza, alors comment concilier toutes ces lectures de nombreuses personnes? Pour vous, le sociologue, vous nous direz quelle est la bonne stratégie ou la bien symbiose à faire. Vous avez entendu l'honorable Mouaka tout à l'heure dire qu'il faut une double riposte armée et médicale. Notre compatriote vient d'insister sur le fait que pour lui, il fallait vraiment d'abord vaincre le côté militaire avant toute autre chose. Vous, le sociologue, qu'est-ce que vous en dites?
J'adhère à ce qu'a dit mon confrère Mouaka, Arsène Mouaka. Mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut vraiment tenir compte, c'est la mentalité de la population. Vous savez, monsieur le journaliste, vous savez que à Butembo, par exemple, il y a certains quartiers inaccessibles aux agents qui sont sur le terrain là-bas pour la riposte. Donc, on ne peut pas voir le véhicule de l'UNICEF, de l'OMS. On ne peut pas voir ces agents accéder là-bas. On les attaque, on lance les pierres. Par exemple, le quartier Muchanga. Personne ne peut accéder. Bah, si vous accédez, on vous attaque. Il suffit qu'on remarque que vous êtes agent de l'UNICEF et ainsi de suite, donc vous, qui travaille contre Ebola. Vous êtes menacé, vous êtes attaqué, et les véhicules sont attaqués. Donc là, ça ne va pas. Il faut que les gens comprennent d'abord, il faut que les gens soient tolérants. Les gens comprennent que ceux qui sont allés là-bas, ils sont en train de travailler pour eux. Donc, mais quand on empêche les autres de travailler, ça pose trop de problèmes. Il faut que tout le monde doit s'engager, tout le monde doit s'impliquer à ça, doit avoir une bonne volonté de travailler pour mettre fin à Ebola. Voilà.
Alors, c'est ce que je peux dire là-dessus. Puisque vous évoquez donc une combinaison d'actions à faire, selon vous, y a-t-il quelque chose à dire aux équipes médicales? Y a-t-il quelque chose à dire aux politiques? Y a-t-il quelque chose à faire sur le plan militaire? Et vous évoquiez déjà les mentalités. Que doit faire la population de son côté pour qu'on arrive ensemble à un résultat?
Oui, le professeur Arsène Mouaka à parler de ce que doit faire le gouvernement. Je ne voudrais plus revenir sur ça parce que, comme je vous ai dit, que j'adhère à tout ce qu'il a dit, il a totalement raison par rapport à tout ce qu'il a dit là. Donc, le problème de guerre et d'Ebola sont des problèmes qui sont ensemble. On doit trouver solution à ça. Donc, le gouvernement a disponibilisé les moyens pour lutter contre Ebola, mais Ebola tue moins que la guerre. Il faut que le gouvernement s'engage totalement à mettre fin à la guerre. Nous ne manquons pas de moyens. On ne manque pas. On a des ressources humaines importantes dans ce pays. On a des moyens de guerre ainsi de suite pour mettre fin à ça. Donc c'est question qu'il y ait une bonne volonté politique pour mettre fin à la guerre à Beni et Butembo ainsi de suite là-bas, donc à l'est. Et vous verrez que le reste iront sans problème.
Alors vous avez vous-même souligné plusieurs fois l'interprétation de la population, son appréhension par rapport à des choses auxquelles elle n'est pas encore habituée. Quel est le conseil que vous donnerez à la population pour participer efficacement à sa propre protection?
La population doit comprendre que Ebola, c'est une maladie virale, une maladie réelle qui existe, qui tue. Eux-mêmes voient comment est-ce que les gens sont en train de mourir. Alors, tous doivent s'impliquer pour mettre fin à ça. Il y a des agents qu'on a envoyés sur le terrain, les agents qui sont en train de travailler sur ça, ils doivent recevoir ces gens-là, ils doivent recevoir les conseils. Il y a des pratiques qu'on est en train de propager là-bas pour leur permettre, pour éviter, pour mettre fin à la maladie, pour casser la chaîne. Donc, la chaîne de transmission de maladies. Il faut que les gens acceptent, comprennent d'abord que Ebola existe réellement. C'est une maladie qui existe. Ce n'est pas le pouvoir politique qui crée ça. Ce n'est pas l'OMS qui crée ça. Parce que les gens de l'OMS ne manquent pas le travail. Les gens de l'UNICEF ne manquent pas le travail. L'Union africaine qui est là-bas ne manque pas le travail, ainsi de suite. Donc, ils ont affaire. Mais ils ne viennent pas là-bas pour trouver l'argent ou bien pour se créer l'emploi. Ils viennent là-bas pour aider la population malade, pour que la population comprenne de quoi s'agit-il, de cette maladie, et puis lutter contre ça pour mettre fin à ça. Le pouvoir doit bien s'impliquer, le gouvernement congolais doit bien s'impliquer pour mettre fin à cette maladie. Sinon, ça sera toujours un problème. Donc même le problème de guerre là-bas, de rebelles là-bas, Ça concerne le pouvoir. Le pouvoir doit s'engager totalement, mettre fin à la guerre pour faciliter aussi les agents qui sont là-bas de bien travailler sur le terrain. Sinon, il n'y aura pas de solution. On ira toujours de problème à problème.
Gauthier, voilà. Professeur Gauthier Moussenemwanza, merci pour cette contribution à cette réflexion. Arsène Mouaka, vous avez vous aussi souligné le fait que les populations avaient des perceptions parfois pas adaptées à la situation qu'il y a sur place. Que pourriez-vous leur dire pour que de leur côté aussi ils participent efficacement à cette riposte, puisque côté militaire et côté médical, vous avez déjà dit un mot?
Oui, je voudrais dire à la population qui me suit que les leçons sont apprises. Et à Beni, à Butembo, à Mangina, à Wicha, et partout où on nous suit, à Mutuanga et Kamango et autres, eh bien, les équipes ont beaucoup travaillé à travers beaucoup de structures, à travers les églises. Et chacun a pris les mesures d'hygiène.
Et puisque vous n'aurez pas beaucoup de temps pour le faire en plusieurs langues, est-ce que, puisque vous avez votre circonscription là-bas, vous pouvez le faire en swahili, puisqu'il s'agit d'une population swahilifone?
Ndiyo, asante. Nitafuta kujulisha watu wote kusema wameweza kujifunza namna gani ingefaa kujikinga na ugonjwa wa Ebola, na mara mingi mapasta na watu mbalimbali wametumika ili watu waweze kujifunza namna gani ya kujikinga. Ninataka kuwaomba waendelee kuweza kuangalia hiyo namna ya kuweza kujikinga, na waendelee kuacha wafanyakazi wa kutusaidia waweze kutusaidia hata kama tunaomba amani.
Merci professeur Arsène Mouaka. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, vous avez la parole en dernier aussi pour donner un message, et ce serait bien de le faire en swahili.
Oui, ni kuambia watoto wa Beni, Lubero na kandokando ya kwamba malaria ya Ebola ni malaria mbaya sana. Ni lazima tuunge mkono wanaokuja kutusaidia ili pamoja tuweze kupiga vita hii maradhi isije ikatuua kama vile tunavyo kufa na ADF. Ni muhimu sana kuweza kuwaunga mkono ili pamoja tuhakikishe kama kesho ama kesho yake tumemaliza hivi virusi vya Ebola katikati yetu.
Asante sana. En attendant que mon swahili soit aussi parfait que mes prédécesseurs, je vous dis au revoir en français. Willem Lungamba à la technique, Dona Madimba, c'est moi à la présentation. J'ai été assisté au niveau de la réalisation par Arlen Irung, supervision Pelé Kipela Mondo, dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.